Vous écoutez
RMC. RMC, Top of the Foot, 18h-21h,
Mohamed Bouafsi, Jean Huitour.
Il est 18h, bonsoir à tous, c'est parti pour un nouveau Top of the Foot à deux jours du début de l'Euro. On va revenir en longueur sur la victoire des Bleus hier avec Mohamed Bouafsi. Salut Mohamed.
Salut Jean-Louis, salut à toutes et à tous.
La Dream Team du soir, avec un duo inédit dans Top of the Foot. Captain Larquet est avec nous, salut Jean-Michel.
Salut Captain.
Bonsoir messieurs.
Et Lionel Charbonnier, salut Lionel.
Bonsoir salut à Lionel. Tous.
Alors messieurs, avec vous donc le match des Bleus hier, l'attaque peut-elle avoir un problème d'automatisme? Olivier Giroud a déploré avoir fait des appels un peu dans le vide hier. On fera ce débat à 19h au 32-16. À 18h30, Thierry Henry sera accusé de stagner dans sa carrière d'entraîneur. Lui qui est de retour dans le staff de la Belgique pour cet Euro, comme lors du dernier mondial. En plus de ces débats, on vous offre vos vacances sur RMC. On vous envoie dans un club Bellambra, un séjour d'une valeur de 2000 euros. Pour remporter ça, vous envoyez vacances au pluriel par SMS au 732-16. Vacances par SMS au 732-16. Et puis on est très attentif à ce qui se passe à Roland-Garros, puisque Rafael Nadal dispute son quart de finale. Nicolas Jamin suit cette rencontre. Salut Nico.
Salut Nicolas.
Nicolas Jamin.
Salut messieurs, on est là à Roland-Garros sur le cours central.
On est déjà dans son podcast, lui, j'ai l'impression.
Exactement, j'ai regardé les statistiques de ce match entre Nadal et Schwartzmann parce que ici on a vécu une très belle émotion puisque Nadal, pour la première fois depuis 2 ans, a cédé un set dans son jardin de Roland-Garros. Mais Nadal a appuyé sur le bouton dans la 3e manche. Il était mené de 4 jeux à 3, il a accéléré. Il a remporté le 3e set 6-4. Il mène 3-0, service à suivre. Donc un jeu de service pour mener 4-0 dans la 4e et certainement dernière manche pour Rafael Nadal.
Et je faisais référence au podcast cours numéro 1 que Nico fait avec Eric Salio et Sarah Pitkowski, podcast quotidien indispensable pour bien suivre Roland Garros. Allez le télécharger si ce n'est pas déjà fait. Les Bleus, on y va. On commence donc par la victoire qui a vu une blessure pour Benzema et un doublé pour Giroud.
Changement de la part de Benzema, il vient de faire le signe.
Et Olivier Giroud va faire son entrée pour les 6 dernières minutes de la première période.
Et 2-2 pour l'équipe de France avec un but signé Olivier Giroud.
Ben Yedder qui va s'entrer pour Giroud.
Le doublé. Et 2-2.
Ça reste un buteur avec un moral et un mental à toute épreuve. Je crois qu'il a plus joué ce soir que les 3 derniers mois réunis.
On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil.
RMC. Top of the day.
Les Bleus sont donc imposés hier face à la Bulgarie 3-0. Plusieurs choses à retenir pour ce dernier match de préparation à l'Euro. Benzema est donc sorti blessé en première période, victime d'une béquille. Alors on vous donnera les infos du jour dans une seconde. Par ailleurs, celui qui l'a remplacé, c'est donc Olivier Giroud qui a inscrit un doublé. Il n'est plus qu'à 5 longueurs de Thierry Henry, meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Alors, sans relancer le débat entre la F1 et le karting, bien sûr, est-ce que tout de même, selon vous, il pourrait y avoir concurrence où Benzema est toujours largement devant dans votre esprit? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Captain.
Oui, on ne va pas remettre en question déjà ce qui s'est fait après 2 heures de retour de Benzema en équipe de France, hein, 1h30, 4h, on va dire 2 heures pour simplifier. Mais c'est vrai que ceux qui s'en tiennent aux statistiques vont dire ben c'est quand même bizarre, c'est qu'en 2 heures, le meilleur attaquant, peut-être l'un des meilleurs attaquants européens, on va pas oublier Lewandowski et bien d'autres, mais un attaquant qui a brillé, qui revient en équipe de France, qui n'a pas marqué, et puis Giroud, qui n'a pas joué 30 minutes avec Chelsea là depuis des mois et des mois, arrive et en plante deux. Non, je crois que c'est prématuré. Cela dit, je sais pas, c'est pas un caillou dans la chaussure de Didier Deschamps, mais les simples déclarations de Giroud au sortir de ce match, on sent quand même qu'il en a pas gros sur la patate, mais qu'il n'est pas prêt à tout accepter, bien que ce soit un garçon extrêmement docile. Et il se sent fort après cette performance contre la Bulgarie, ce doublé. Il se sent fort, il dit des choses qui, je pense, qu'ils vont faire un peu réfléchir l'ensemble du groupe. Je me démarque, je fais des appels, mais je ne reçois pas les ballons comme je devrais les recevoir, c'est-à-dire en temps normal, que certains joueurs autour de lui soient des garçons un peu plus individualistes qu'à Chelsea, je veux bien. Mais trop individualiste, ça pose problème. Et évidemment, je pense que le premier visé dans les ballons qu'il n'a pas reçus, c'était certainement pas Griezmann, mais c'était plutôt Mbappé. Donc, je dirais que quelque part, cette déclaration, je ne dis pas qu'elle va troubler le stage de l'équipe de France, mais elle interpelle et on a peut-être le sentiment aujourd'hui.
J'ai l'impression que tu anticipes le débat de 19h.
Non, mais c'est pas grave, parlons-en tout de suite, même si je pense quand même.
Je sais pas.
Non, mais c'est pas grave.
J'ai l'impression que la sortie de Giroud va animer le stage de l'équipe de France. Et en tout cas, de cause, je trouve que Giroud a raison de ne pas accepter d'être uniquement un numéro 2. Et Didier Deschamps le dirait, un joueur qui ne joue pas et qui est en colère. Eh bien, c'est normal. Et je pense que Giroud est un tout petit peu en colère.
Alors, effectivement, Captain, on avait prévu d'en parler à 19h, mais c'est pas grave, on va le faire tout de suite. Bon, et pour que tout le monde comprenne bien, mais c'est pas grave, Captain, on s'adapte, vous dis donc, on s'adapte aux stars, 15 ans de l'arc et foot, hop, on est habitué. Donc, Captain, tu fais référence à ce qui s'est dit hier en après-match chez nos confrères de la chaîne L'Équipe. Écoutez donc Olivier Giroud, juste après le match, on lui a demandé pourquoi il avait été, pourquoi il a fait cette entrée discrète jusqu'à ses deux buts.
Discret parce que des fois on fait des courses mais les ballons arrivent pas, j'ai envie de dire. Après je prétends pas toujours faire les bons appels, mais je me suis évertué à donner des solutions dans la surface et pour le coup j'ai eu de bons ballons de Ben et de Wissam et j'ai pu bien finir.
Voilà, donc pour le coup,
il cite pas Mbappé.
Non, exactement, il cite ceux qui ont réussi à le trouver sur les deux buts.
Alors il y a quand même, c'est quand même très bien dit, mais il y a un message subliminal. Oui, mon petit Mbappé, de temps en temps, fais-moi une passe.
Ah non, l'effet d'abord, Didier Deschamps a répondu juste après. On l'écoute, le sélectionneur.
Si le ballon arrivait à chaque fois sur les appels, des fois, c'est toujours pareil. L'attaquant, il dit « je fais », mais ça vient des milieux. Les milieux, ils vont dire que c'est les attaquants. Après, vous faites les débats, mais non, il le dit, ça peut arriver. Et c'est pas stigmatisé sur Kylian ou sur qui que ce soit. Olivier n'a pas le même profil que Karim et il a une position plus axiale de pivot, alors qu'en première mi-temps, bon, les trois, ils pouvaient permettre de se retrouver dans n'importe quelle zone. Avec Olivier, dans son profil, il a une position plus axiale.
Voilà, pour les explications de Didier Deschamps.
Non, mais il y a une explication. Il y a une explication que je peux vous donner parce que je traduis l'Olivier Giroud depuis 10 ans pour le suivre en équipe de France, mais aussi à Montpellier. C'est que je pense que on n'a pas entendu la question du journaliste, mais il n'a pas forcément apprécié la question du journaliste sur lui et notamment sur le fait qu'il puisse être mis en question alors qu'il vient de marquer 2 buts aussi, capitaine. Et je vais te suivre complètement, Jean-Michel. Je pense que Kylian Mbappé est visé légèrement par cette réponse en second temps ou en troisième temps. Là, en fait, ce qu'il a expliqué, c'est qu'il trouvait que la question n'était pas forcément légitime après avoir mis 2 buts où on le remettait encore un petit peu en question. Et ce qu'il explique, c'est qu'à 2 ou 3 situations, à 2 ou 3 reprises, les Bleus auraient pu centrer directement au lieu à chaque fois de chercher des petites passes qui ne servent à rien, etc. et qu'on pouvait se porter ou se projeter plus facilement vers l'avant. Tu as raison, capitaine.
J'ai l'impression qu'il y a deux choses qu'il n'appréciait pas. C'était peut-être la question. Et au fait, aussi le fait d'être démarqué, parce que Didier Deschamps, quand il donne les explications, elles sont celles d'un entraîneur. Parce que lorsque quelqu'un a le ballon, le porteur de balle a le ballon, il vaut mieux qu'il ait 2 ou 3 possibilités pour le donner qu'une seule possibilité. Ce qui veut dire que lorsqu'il choisit un joueur, il en oublie forcément 2 autres. S'il a 3 choix, on est bien d'accord, hein, on essaie d'être plus clair que certains. Eh bien, le problème, c'est que Giroud, il a l'impression qu'il était peut-être le seul choix et qu'à tous les coups, il a été oublié.
Oui, c'est ça, t'as raison. Alors, t'as raison, Jean-Michel.
Quelque part, moi, j'ai le sentiment quand même qu'il... Il envoie un petit peu, il fait le passe.
Alors Lionel, qu'est-ce que t'en penses toi ? Est-ce que il envoie ses messages Giroud parce que il trouve qu'il a été trop souvent oublié, ou est-ce que c'est juste une histoire de réglage entre deux attaquants, une question d'automatisme ?
Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Il y a Giroud qui voulait quand même recevoir des ballons de Mbappé. Alors on ne joue pas avec Giroud de la même manière qu'on joue avec Benzema. Didier l'a dit, il a parfaitement raison. Donc il y a eu un gros travail d'automatismes faits pendant la préparation et notamment à l'entraînement. Les automatismes, ils ont été, on a essayé de les trouver en multipliant le trio. À chaque fois, c'était Mbappé, Benzema et Griezmann. En face, quand il y avait des jeux, donc ceux-là travaillaient ensemble. En face, quand il y avait des jeux contre ces trois-là, en face, tu avais tout le temps Giroud, Ben Yedder, et puis je ne sais plus le troisième. Mais ça veut dire que Giroud avait l'habitude de jouer avec Ben Yedder. Il a reçu, il y a des automatismes qui se sont créés entre lui et l'autre pendant les phases de jeu amicales, je dirais, en tout cas d'entraînement. Il se crée des trucs entre eux. Les choses, comme par hasard, on les a retrouvées hier, pratiquement tout de suite, dès qu'on a retrouvé ce triumvirat, qu'on n'avait pas forcément, parce que tu ne regardes pas dans les mêmes zones quand tu es Mbappé, tu ne regardes pas dans les mêmes zones... Giroud ne fait pas les mêmes appels que Benzema. C'est pas possible. Donc, il faut en deux secondes que tous ces joueurs-là changent leur regard, changent les automatismes, changent tout ça. Donc, Giroud s'en est plein. Oui, je pense. Effectivement, il a dit oui. Mais il y a aussi, il faut relativiser par rapport à ce que j'ai dit avant.
Il s'en est plein parce qu'il ressent aussi de la frustration. Et autant pour revenir.
C'est normal.
C'est normal qu'il la ressente. Mais il ressent de la frustration sur le terrain. Mais il ressent aussi de la frustration à l'extérieur du terrain. Parce que là, on a avancé sur notre débat, on a anticipé notre débat à 19h, mais on peut le faire. Mais moi, je reviens quelques secondes sur le débat sur la concurrence avec Benzema. On est tous d'accord. Et Jean-Michel l'a très bien résumé. Ne faisons pas ce débat de concurrence. C'est encore trop tôt.
Il n'y a pas de concurrence
entre les deux. En revanche, on était tous d'accord et on entendait cette petite musique de dire vu que Benzema est là, c'est le numéro 1 et que derrière, à la 65e minute d'un match, à la 60e minute d'un match, si Benzema doit sortir, eh bien, ce ne sera pas Olivier Giroud qui va entrer. Et hier, je suis désolé, il n'y a pas de concurrence avec Benzema. C'est le numéro 1 et dès qu'il sera revenu de sa petite béquille, il sera toujours le numéro 1 parce que c'est un joueur fantastique, exceptionnel. En revanche, qui nous dit et qui peut nous dire aujourd'hui que Giroud ne peut pas entrer à la 65e minute pour finir le travail et pour égaliser ou pour nous tenir
donc
un score?
C'est une complémentarité. Faut arrêter de dire les numéros 1, les numéros 2.
Oui, mais c'est pour ça que
je comprends la frustration de
Olivier Giroud. On est passé d'Olivier Giroud qui était titulaire indiscutable à Olivier Giroud aujourd'hui qui est limite.
Est-ce que la frustration elle est pas différente? C'est de voir que quand il est sur le banc, Mbappé cherche en permanence Benzema et quand lui arrive à la place de Benzema, personne le cherche. Non, c'est pas forcément ça.
Non, pas forcément. Mais il y a une petite musique. Il y a celle qu'a mis en route Giroud, mais il me semble que dans la semaine, on s'est interrogé et le temps de jeu de Giroud posait des problèmes au sélectionneur lui-même.
Il l'a dit,
il y a bien eu une remarque de la part de Didier de cette là-dessus.
Oui.
Donc
si
tu veux, Didier, Giroud, on a le sentiment, moi, d'où je suis, je ne suis pas dans les secrets. J'ai le sentiment qu'on l'a préparé gentiment, tout doucement, à être véritablement le numéro 2. Et Lionel, je veux bien qu'il n'y ait pas de numéro 1 et de numéro 2, mais quand il y en a un qui joue 89 minutes et l'autre une minute, il me semble qu'il y a un numéro 1
mais
et un numéro 2.
Tu le sais mieux que moi, Jean-Michel. Tu sais pourquoi Benzema a joué beaucoup plus que Giroud. Il fallait retrouver ses automatismes. Et toi, tu es encore mieux placé que moi pour le parler. Quand tu avais un mec, quand tu jouais avec un attaquant qui faisait certains appels, et d'ailleurs, Didier l'a dit, avec Giroud, tu vas t'en servir plus comme une planche. Avec
c'est
Benzema,
ça. Il y a moins de
servage
de
tous les côtés. Et toi, tu avais tes automatismes,
alors,
Jean-Michel.
Messieurs, excusez-moi, je suis obligé de vous interrompre parce que Raphaël Nadal se rapproche du match, Jean-Michel. Je te redonne la parole juste après. Garde en tête ta petite musique. Ah, bah quand même, Raphaël Nadal à Roland-Garros qui est sur le point de se qualifier pour la demi-finale. Nicolas Jamin.
Il est à deux points du match, Raphaël Nadal. Il mène 2-7-1 face à Diego Schwartzmann. 5-0 dans la quatrième manche. Il a accéléré, il s'est énervé, l'Espagnol. 30-0 sur sa mise en jeu. Deuxième balle à suivre pour Rafael Nadal. Schwartzmann, le pauvre, il n'en peut plus. Le petit Argentin d'1m68, mais il a livré un combat magnifique aujourd'hui. C'est parti pour l'échange. Nadal, oh, il accélère encore une fois, le revers magnifique, long de ligne. 40-0, 3 balles de match. 3 balles de match pour Rafael Nadal, 3 balles de qualification pour les demi-finales de Roland-Garros.
Nadal qui va s'imposer évidemment et qui va attendre tranquillement de voir si son ami Novak Djokovic va le rejoindre. Ce sera le match à suivre ce soir sur RMC aussi. Matteo Berrettini, Novak Djokovic, quart de finale en session de nuit à Roland-Garros. Le silence sur le court Philippe Châtrier, trois balles de match, la première la voici pour Rafael Nadal. La première balle ne passe pas, la deuxième est à suivre pour l'Espagnol. 2h44 minutes de jeu ici sur le court Philippe Châtrier. Il est fait un temps magnifique. Nadal a plié, mais Nadal n'a pas rompu. Deuxième balle pour l'Espagnol. C'est parti pour le numéro 3 mondial. Il joue court, là, il accroche la bande du filet. Schwartzmann peut accélérer. C'est terminé. Victoire donc en 4 manches de Rafael Nadal. Bravo Diego Schwartzmann. Ovation du public ici, les 5000 spectateurs pour l'Argentin. Mais Nadal s'impose en 4 manches et 2h45. Il sera donc en demi-finale de Roland-Garros.
Merci Nicolas Jamin. À Roland-Garros, Captain Larc, il y a une seconde, a commencé une phrase ainsi. Il y a une autre petite musique. La suite de cette phrase est dans une seconde et on continue le débat au 32-16. Benzema Giroud, peut-il y avoir concurrence? À tout de suite.
RMC Top of the Foot, 18h21h,
Mohamed Bouafsi, Jean-Louis Tour.
18h18, c'est Top of the Foot avec Captain Larquet et Lionel Charbonnier. À 18h30, Thierry Henry sera l'accusé du soir, accusé d'avoir une carrière d'entraîneur qui stagne avec son retour dans le staff belge. 32-16, appelez-nous pour participer. Alors on est en plein débat Benzema Giroud, Giroud qui se plaint de ne pas être suffisamment servi, lui qui est entré après la blessure de Benzema. C'est même davantage un débat Giroud-Bappé hein, puisque même s'il ne le cite pas, c'est peut-être lui qui était visé. Captain Larquet a commencé une phrase donc il y a quelques minutes, ouais. Et on est impatient d'entendre la fin.
On l'attend, Captain.
Non, mais je prends pour exemple, il a cité les deux passeurs sur des buts qui n'étaient pas tout à fait les mêmes, puisque l'un venait d'une passe côté droit de l'attaque et le second venait d'une passe côté gauche. Je suis sûr que quand le petit Ben Yedder lui met une véritable galette, parce que le ballon que met Ben Yedder, il a 50% de chance de frapper, il a 50% de chance de passer. Et qu'a choisi Ben Yedder? Il a choisi de passer. Il a choisi de donner le ballon et de donner un véritable caviar à Giroud. Et c'est là aussi que je pense que Giroud dit, je pense que moi, quand j'ai fait un appel avec Ben Yedder, je sais que même s'il a une opportunité de frapper, il va quand même me la donner. Et je ne suis pas sûr que Mbappé, dans la même position que Ben Yedder, un, que Giroud suive l'action du match, deux, que s'ils sont dans la même situation, Mbappé lui passe le ballon.
Jean-Michel, je suis entièrement d'accord avec toi, parce que dans j'en suis pas sûr aussi, mais dans les 38 premières minutes, on est tous d'accord pour dire que Benzema, Griezmann, Mbappé, c'est sans doute la meilleure attaque du monde. Je le pense et je suis ravi de revoir Benzema sur les terrains et j'espère très vite qu'ils vont créer des automatismes, parce que Lionel en parlait de ces automatismes-là. Mais j'aimerais pas que ça devienne un jeu stéréotypé, presque, je ne sais pas si vous allez me suivre ou me comprendre, un jeu de City Stade où les deux, où les trois joueurs se font des petites passes à 4 mètres, 3 mètres ou FIFA 2021, ouais. Et qu'on crée plus de jeu et qu'on crée plus de danger parce que mais on veut faire des belles passes, on veut faire des beaux dribbles. J'ai juste peur de ça, c'est
Lionel.
Tout.
Ouais. Mais là-dessus, Mohamed, je te rejoins, mais c'est pas quelque chose qu'il faut bannir. Parce que justement, en faisant ce style de jeu, dans un premier temps, avec ce trio-là, ce comment tu dis, Jean-Michel, FIFA 2000 ou je sais plus.
Ben non, comment... 2021. Non,
2021. Ah,
je suis resté. Comment t'as dit, ouais,
moi, j'étais resté avec les trucs là. Tic,
tac, ouais, voilà. voilà, bah, en faisant ce jeu-là, tu vas donner un certain style de jeu à la défense adverse. Et après, quand tu vas faire rentrer Giroud, la défense va être complètement déstabilisée. Moi je dis, c'est pour ça que je parle de complémentarité, parce que à partir de là, ce jeu-là, tu ne l'auras plus, Mohamed. Et tu vas retrouver un jeu avec, en passant par les ailes, avec un mec, un véritable finisseur, un véritable buteur, moins présent dans le petit jeu, mais par contre beaucoup plus présent dans la surface et dans les derniers mètres.
Moi je comprends les termes employés par Mohamed. Faites attention, parce que un automatisme, ça veut dire bien des choses. Qu'est-ce que ça veut dire être automatique? C'est-à-dire répéter toujours la même chose. On est bien d'accord?
C'est ça.
D'accord. Oui. Et vous pensez que les adversaires, s'ils ont face à eux des joueurs certes talentueux, mais qui ont des automatismes, c'est-à-dire qui répètent toujours la même chose, Vous pensez pas qu'ils vont savoir s'adapter les
C'est là où on va voir. C'est là où on a les grands joueurs. C'est là que les grands joueurs interviennent, Jean-Michel. Parce que les grands joueurs, le grand joueur, c'est quoi par rapport à tous ces automatismes?
Les grands joueurs, il faut qu'ils cherchent aussi.
C'est celui qui est capable de te créer quelque chose de neuf.
Mais les grands joueurs, il faut qu'ils cherchent aussi de temps en temps les joueurs qui sont moins bons qu'eux. C'est-à-dire qu'ils les fassent jouer et qu'ils les oublient pas.
Peut-être qu'ils vont les faire jouer. Peut-être qu'ils vont les faire jouer.
Donnons la parole. Le ballon plus vite aussi.
Hichem, qui nous rejoint au 32-16. Salut Hichem.
Salut Hichem.
Bonjour à tous.
Salut Hichem, salut.
Salut Hichem.
T'as pensé quoi du match de Giroud en 1 et de ses déclats après la rencontre?
Le match de Giroud était juste exceptionnel. Je tiens à louer son humilité, mais j'y reviendrai. Et pour la suite, c'est le joueur qu'on connaît. Il pèse fort sur les défenses. Il n'a pas énormément de ballons à jouer, mais il les négocie tous bien. Tous sont très bien négociés.
Tous, c'est peut-être un peu exagéré. Hein. Jusqu'à son but, il ne se mettait pas vraiment en évidence dans le jeu.
Je ne suis pas forcément d'accord. Quand il est excentré à gauche et qu'il met une grosse frappe qui aurait pu passer, arrêté par le gardien, pour moi, Giroud, c'est du fiable, c'est du sûr.
Tu sais, Jean-Louis, excuse-moi, Hichem, j'ai une phrase
De
l'entraîneur national, l'ancien entraîneur Arsène Wenger, qui disait écoute-moi, à chaque fois qu'il avait Giroud. Il parlait avec les défenseurs et tous les défenseurs disaient putain, moi j'ai l'impression que l'attaquant n'avait rien fait. Il avait rien fait du match. Je voyais Giroud, putain, je le trouvais nul. Et tous les défenseurs disaient mais qu'est-ce qu'il est chiant à jouer, mais qu'est-ce qu'il nous
fait. Pourquoi il l'a mis sur le banc au bout d'un moment alors s'il était si illusant?
Écoute, il l'a mis sur le banc, mais tout le monde le met sur le banc.
Et
quand il rentre, il marque tout le temps des buts.
Ah oui, alors donc il marque des buts, il use les défenses, mais tout le monde le met sur le banc.
Tout le monde le trouve chiant, il emmerde tout le temps tout le monde, mais parce que voilà, Hichem le disait.
On est dans un football où on aime un petit peu ce qui est esthétique. Mais Giroud, peut-être qu'il n'est pas dans cette démarche, quoi qu'il a mis des buts exceptionnels, on le sait tous, mais il pèse. Et le but d'un numéro 9, c'est de marquer des buts.
Bon, très bien. Donc toi, tu ferais une vraie concurrence avec Benzema?
Moi, je pense que déjà, la question est mal posée. Je pense qu'on a deux joueurs qui ont des profils différents et qu'il faut en profiter.
Bien joué.
Bravo,
Michel. Voilà, mais quand je le dis, alors tu me dis pas bien joué, Jean-Michel.
Non, parce que tu le dis pas.
C'était pas aussi clair, en plus.
Non, mais moi, j'ai dit bien joué. Moi, je dis bien joué à personne, moi.
On joue pas l'Allemagne de la même manière qu'on va jouer la Hongrie ou même le Portugal. Donc, pourquoi pas, justement, se dire, au lieu de dire, faut-il les mettre en concurrence, poser une question du genre, le fait d'avoir deux profils différents mais deux joueurs de top niveau, c'est quelque chose d'exceptionnel dont peu de nations peuvent se
très bien
se
réjouissons-nous
peut être heureux, capitaine, on peut être heureux d'avoir et Olivier Giroud et Karim Benzema, et Olivier Giroud peut rentrer à la 65e minute et nous nous apporter quelque chose de différent. Et je peux vous dire quelque chose,
parce que je t'ai dit jusqu'à maintenant,
bravo Mohamed, t'es très bien dit.
Merci,
t'es bon Mohamed,
t'es bien
mieux. Et en plus t'as vraiment des éclairs de génie, toi. Faut vraiment pas t'ouvrir l'esprit.
Dans ma première prise de parole, j'ai dit exactement la même chose.
Non.
C'était mieux dit que Lionel.
Arrêtez de vous passer la brosse à reluire, vous allez voir.
J'ai l'impression que Lionel a du mal à se faire comprendre. Voilà.
Oui, je pense
que les autres le disent, c'est mieux.
J'ai surtout l'impression que vous n'avez pas envie de comprendre de ce que je dis.
Est-ce que tu dirais que Giroud est un leader technique? Non, bon, alors ça, c'est un autre débat. Hichem,
je l'ai dit. Oui.
Je sais. Salut Hichem.
Avant de vous quitter, j'ai juste une petite dernière chose à dire.
Vas-y.
Je loue et je respecte vraiment la mentalité de Giroud, qui a gagné la Ligue des Champions alors que son équipe a éliminé le Real Madrid. On sait les petites piques que Benzema a lancées, et il reste toujours humble, toujours droit, pas de célébration ostentatoire où il bouche les oreilles, où il met son doigt sur la bouche, toujours classe, alors qu'il est toujours efficace. Et ça franchement, je pense que c'est exceptionnel de la part d'un joueur.
Et tu fais bien de le mettre en avant. Merci Hichem, à bientôt.
Merci
sur RMC. Dans une seconde, la carrière de Thierry Henry est-elle en train de stagner? Le débat d'en fait d'entrer l'accusé. Restez avec nous.
RMC, Top of the Foot, 18h-21h.
Mohamed Bouafsi, Jean-Louis Tour.
19h30, c'est Top of the Foot avec Captain Larqué et Lionel Charbonnier. Ce soir à 18h45, Julien Cazard fera son retour. Il nous donnera son avis sur le match des Bleus hier soir. Tout le monde en est content. Tout de suite, Thierry Henry.
RMC, Top of the Foot.
Faites entrer l'accusé.
On s'intéresse donc à Thierry Henry ce soir, le champion du monde français qui a rejoint aujourd'hui la sélection belge. Il sera donc T3, soit deuxième adjoint de Roberto Martinez pour cet Euro. Comme lors du Mondial 2018, il revient au même poste. Alors, depuis ce Mondial, il a donc enchaîné Monaco, puis l'Impact de Montréal comme numéro 1, sans vraiment réussir sur ces deux postes. Alors, revenir avec la Belgique, est-ce un signe que sa carrière est en train de stagner? C'est ce que va développer l'accusation ce soir, mené par le procureur Jean-Michel Larquet. Bonsoir, monsieur le procureur.
Bonsoir, la cour.
Évidemment, Thierry Henry va être défendu par le lobby 98, bien connu, avec l'avocat maître Lionel Charbonnier. Bonsoir, maître.
Bonsoir, la cour.
Quoi, c'est une voix? Le juge qui va trancher, c'est le juge Boissy.
Non, parce que c'est difficile de le défendre, mais je vais essayer.
Attendez.
C'est pas moi qui ai choisi.
Vous êtes commis d'office, mais bon, vous avez travaillé vos sujets.
C'est ça, les copains.
T'es sûr qu'il passe pas T2?
Bah, T2, c'est premier adjoint.
Ouais. T2, c'est premier adjoint.
Donc, non, il n'est pas premier adjoint. Il est.
Moi, j'ai lu qu'il passait premier adjoint.
C'est Mélonet, l'adjoint de Martinez.
Oui, enfin, bon. Ouais.
Monsieur le rapporteur, il bosse ses sujets.
Ah oui?
Bravo.
T1 ou T2.
Le juge qui va trancher, oui, quoi qu'il arrive, c'est un T, voilà, c'est pas l'entraîneur numéro 1. Le juge, c'est le juge Boissy. Bonsoir, monsieur le juge.
Bonsoir à toutes et à tous.
32-7, évidemment, pour participer. Monsieur le procureur, qu'est-ce que vous reprochez à Thierry Henry?
T1 ou T2, c'est pas un appartement, rassurez-moi.
Non.
On n'est pas chez, comment il s'appelle?
Un peu petit, Stéphane Plaza. Ou Mohamed Boissy, qui est un peu le Stéphane Plaza de la rédac.
J'adore l'immobilier, Jean-Michel.
Ou adjoint de l'adjoint.
Oui, là, il est adjoint de l'adjoint. Bon, alors, monsieur le procureur.
Oui, non mais quel formidable joueur, et peut-être qu'un jour il sera un formidable entraîneur, mais pour l'instant effectivement, peut-être qu'il n'a toujours pas tourné la page, et que Thierry Henry est toujours joueur et pas encore entraîneur. En tout état de cause, les débuts sont difficiles, compliqués, et pourtant, je me souviens, du côté de la Belgique, je pensais que le tremplin était un tremplin idéal. Il y a eu des bons rapports d'ailleurs des joueurs, des commentaires pas dithyrambiques mais sympas de la part des joueurs de la Belgique qui étaient arrivés en demi-finale et qui louaient les qualités pédagogiques de Thierry Henry. Ça s'est très vite gâté du côté de Monaco. Monaco, où il avait pris la succession de Jardim, je pense. Qui était en difficulté, mais qui auparavant avait réussi. Et c'est vrai que les entraîneurs qui sont passés à Monaco depuis quelque temps ont plutôt réussi, même Jardim, même s'il a été viré deux fois, et que dire de Kovac aujourd'hui. Donc, même dans un contexte favorable, et Dieu sait si ce contexte lui était favorable, puisque c'est du côté de Monaco qu'il a été formé, il n'a pas réussi. Il est parti à l'Impact de Montréal, où il a démissionné. Il est parti, je crois qu'il avait été sollicité, pressenti du côté
en
de
Angleterre.
Bournemouth.
Bournemouth. Non, j'ai un doute.
Je crois que c'est Bournemouth.
Bournemouth, tu as raison, Captain.
J'aime bien comment Captain le dit.
Bournemouth.
Bournemouth.
C'est magnifique, l'action.
Comme Madrid. Oui, ah oui. Bournemouth. Et j'ai l'impression quand même que ce garçon-là, peut-être doit se poser des questions. Un, je pense que sa motivation est complète. Il a envie d'être entraîneur. Deux, je pense qu'il doit tourner la page s'il veut véritablement réussir et ne plus être tout à fait joueur. Et trois, la dernière question, qui est la question qui fait le plus de mal, c'est est-ce que Thierry Henry est fait pour être entraîneur? On n'en sait rien. Il a peut-être pris le mauvais chemin pour être entraîneur. Il n'a pas suffisamment été.
Oui, les grands joueurs peuvent ne pas être de bons entraîneurs. Vous en savez quelque chose, monsieur le procureur.
J'en connais des tas. Mais puisque vous citez des grands joueurs, Zidane, il a quand même commencé par le Castilla pendant plusieurs saisons. Il a été ensuite l'adjoint d'Ancelotti, où je pense qu'il a appris beaucoup. Beaucoup, beaucoup de choses. Et peut-être que Zizou... Mais ça, c'est la nature humaine qui est faite ainsi. Peut-être que Zizou, du jour au lendemain, a tourné la page de joueur pour devenir entraîneur. Et j'ai le sentiment que Thierry Henry n'a pas tourné cette page. Et qu'à partir du moment où il ne tournera pas cette page, il ne pourra pas être entraîneur. En tout état de cause, quand on regarde les allées et venues, aujourd'hui, il est revenu à son point de départ, c'est-à-dire adjoint T2 de l'équipe de Belgique. Ça veut dire qu'en 3 ans, il n'a pas progressé. Et comme certains qui le disent, celui qui ne progresse pas est toujours en train de reculer. Et je pense que Thierry Henry aura des difficultés pour être un entraîneur de haut niveau.
Vous le savez, tous ceux qui sont accusés ont droit à une défense. Parole donc à l'avocat de Thierry Henry, Maître Charbonnier.
Oui, je suis d'accord. Mon client a le parfait profil du coupable. Ça sera sûrement un mauvais entraîneur. Hein, ça sera sûrement. Mais il a des circonstances atténuantes. Mon collègue disait tout à l'heure que lorsqu'il est allé à Monaco, c'était la situation idoine pour lui. Non, il s'est trompé. Il a fait une erreur de jeunesse. Il a pris un poste qu'il n'aurait jamais dû prendre, tout simplement parce qu'il n'avait pas assez d'expérience pour pouvoir être à la fois pompier, souvenez-vous, Monaco n'arrêtait pas de perdre. Il fallait retourner les cerveaux, il fallait que mon client soit capable d'être un pompier de service. C'est un métier à part entière. D'ailleurs, il y a des entraîneurs qui ne font que ça. Et en même temps, comme ça ne suffisait pas, en même temps, on lui a demandé d'instaurer le style. Parce que comme c'est un grand entraîneur, mais qui n'a pas d'expérience, ça, on ne l'a pas pris en compte. On lui a dit, tu vas instaurer le style Thierry Henry. Tu vas jouer, tu vas mettre comme tu veux. C'est trop. Même les plus grands entraîneurs mondiaux, je n'en connais pas un qui a les deux casquettes. C'est ou l'un ou l'autre. Lui n'avait l'expérience pour faire ni l'un ni l'autre. Maintenant, il s'est aperçu de quoi ? Parce qu'il a enchaîné. Il a enchaîné. Et il est allé, il s'est rendu compte qu'en enchaînant, peut-être le métier d'entraîneur, effectivement, c'est pas pour lui. Tout simplement parce que maintenant, le métier d'entraîneur, on vous demande à 90%, et notamment les équipes qu'il a entraînées jusqu'à maintenant, et non pas celles comparables avec celles qu'a entraînées Zinedine Zidane, où il n'y a que des grands joueurs. Il avait affaire de la post-formation, s'adresser à des joueurs. Et d'ailleurs, ça lui a porté préjudice, puisque il a même été jusqu'à pratiquement humilié par ses paroles, voire même ses gestes techniques lors des démonstrations. Il humiliait les joueurs, puisque lui, 15 ans plus vieux que ces joueurs-là, il était capable de faire des choses techniques que les propres joueurs qui devaient jouer le samedi n'étaient pas capables de réaliser. Il s'est mis de travers, et il s'est rendu compte que ces joueurs-là, en fin de compte, n'étaient pas assez bons par rapport à sa vision du football. Il s'est dit, mon client a complètement compris, il s'est dit, moi, je veux le gratin. J'ai fait une erreur, je suis allé entraîner, je veux être sélectionneur. Tout simplement. Et si je peux, je vais sélectionner, je vais devenir le sélectionneur là où j'ai commencé, des Diables Rouges, parce que on sait très bien que leur sélectionneur actuel va bientôt laisser la sélection, peut-être dans un mois et demi. Tottenham, le Barça, les plus grands clubs lui font l'un. Et pourquoi pas un Thierry Henry qui devient sélectionneur, qui va pouvoir parler et enfin mettre son football et faire quelque chose de bien. Parce que là, on parle plus de post-formation, on parle de la meilleure équipe nationale avec les meilleurs joueurs, certains en tout cas, actuellement, et ce depuis 3 ans. La Belgique est numéro 1 mondial depuis 3 ans. Donc voilà, il aura des joueurs qui peuvent sûrement, comme disait mon confrère de la partie adverse, qui vont comprendre ce qu'il dit. Pour une fois, les autres, ils comprennent rien.
Tu les as humiliés, ceux-là.
Maître, c'était remarquable. Vous l'avez parfaitement défendu, votre client.
Ouais, ouais, c'était pas facile.
Ah, mais vous avez été très bon, c'est remarquable.
Vous avez été très courageux. C'est
oui, très courageux. Voilà. Bon, en même temps, vous êtes payé pour. Monsieur le juge, on embrasse les joueurs de Monaco, bien sûr, au passage. qui ne comprendront jamais rien.
Qui sont nuls, qui comprendront jamais.
Voilà. Parole au juge. On tranche pour qui ? Thierry Henry, sa carrière d'entraîneur, elle stagne ou non ?
Écoutez, la plaidoirie de Maître Charbonnier a été très très bonne. Mais le réquisitoire de Monsieur Larquet était excellent. Voilà, donc je vais donner raison à Maître Larquet pour la deuxième fois en 2 jours.
Ouais. Comme il calcule et il comptabilise là.
Ah oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu vois, si on change de rôle. Non, plus sérieusement, Lionel, vous avez été très très bon dans ce rôle-là, Maître. Mais je donne raison à Monsieur le procureur Larquet parce que il fait les mauvais choix depuis plusieurs années. Il n'aurait pas dû aller à Monaco. Et il a été à Monaco parce qu'il a cru qu'il était plus fort et qu'il était capable de relever l'AS Monaco. À l'entraînement, pour avoir suivi le club pendant quelques semaines, pour avoir discuté avec des joueurs, ça se passait très mal parce qu'il est, il était capable d'être beaucoup plus fort que les autres joueurs. Comme l'a dit Lionel, il humiliait les joueurs de Monaco. Alors, humilier, c'est peut-être un peu fort, mais montrer qu'à 45 ans, je crois qu'il a 40 et 45 ans, Thierry, Thierry Henry.
Facile, ouais.
Ouais, quand t'es 45 ans, quand t'es plus fort que certains gamins qui ont 19-20 ans.
43,
voilà. 43. Quand à 43 ans, t'es plus fort techniquement, voire physiquement que certains gamins qui ont 20-22 ans, c'est quand même assez inquiétant. Et je pense qu'il n'a pas eu les mots suffisants, nécessaires pour essayer de rendre ses joueurs plus forts. Et un manager, comme c'est le faire Zinedine Zidane, comme il l'a fait à la Castilla, comme il le fait et il l'a fait au Real Madrid, et comme il est capable encore de le faire aujourd'hui, c'est sublimer ses joueurs. C'est rendre ses joueurs meilleurs et c'est pas forcément penser à son ego, à sa personnalité. Et je pense que Thierry Henry n'est pas encore capable, en tant que numéro 1, de le faire. Et tant qu'il ne sera pas capable de le faire, il ne deviendra pas un grand numéro 1. Je pense qu'il n'est pas encore prêt. Je pense que faire des mauvais choix, même des mauvais choix de club, c'est une grande erreur en tant que coach. Et pour moi, il va continuer de stagner. Il stagne même en choisissant de revenir avec la Belgique en Belgique en tant que numéro 2.
Si on dit qu'il est pas prêt, on peut pas lui reprocher de retourner auprès d'un sélectionneur très bon comme Martinez pour apprendre.
Parce que regarde Jean-Michel,
Jean-Louis, contradictoire.
Non, oui, Jean-Louis, je suis pas du tout. En fait, ce que je te dis aussi, c'est que regarde à l'impact, il avait une équipe où c'était pas une grande équipe, il avait pas de très grands joueurs, il avait pas de pression à l'impact. Il pouvait évoluer tranquillement.
Non, mais le discours ne passe pas,
il a pas réussi. Mais si le discours ne passe pas, c'est qu'il stagne. Donc,
c'est parce que en tout cas, il a pas été formé pour formater, pour faire progresser des joueurs comme ça.
Il a croisé. Mais Zidane à la Castilla, il était...
Non, à la Castilla, Zidane à la Castilla, au début, c'était catastrophique. Catastrophique. Ils pensaient même à le dégager, les
peut-être,
mecs. Arrêtez un peu.
Mais sauf que quand tu n'y arrives pas à Monaco, quand tu n'y arrives pas à l'Impact, et que les grands clubs ne te veulent pas, et qu'il n'y a que Bournemouth, comme le dit Jean-Michel, qui est intéressé par ton profil, c'est que ça devient vraiment inquiétant.
Après, il y a Momo, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et moi aussi, personnellement, j'en ai été un petit peu victime parce que quelquefois, j'ai pas su le faire en tant qu'entraîneur. C'est-à-dire que la génération actuelle, et notamment les joueurs qu'il a eu à Monaco, certains, tu ne peux plus les manager et leur parler de la même manière que ce que nous, on a vécu avec Jean-Michel.
Oui.
Juste, cher confrère, le problème, c'est que aujourd'hui, il manage la génération actuelle.
Mais bien sûr.
Allez, dans une seconde, on laisse Thierry Henry de côté. Et dans une seconde, Julien Cazard nous rejoint. Ne ratez pas ça. À tout de suite.
RMC, Top of the Foot. 18h21h.
Mohamed Bouafsi, Jean-Louis Tour.
18h48, c'est Top of the Foot sur RMC avec Captain Larquet, Lionel Charbonnier. À 19h, Gerson arrive à Marseille. Le mercato va-t-il être plus ambitieux que prévu pour les Marseillais? 32-16, appelez-nous pour en parler et pour débattre avec la Dream Team. Tout de suite, Julien Cazard nous rejoint. Bonsoir, Julien.
Salut, bonsoir Julien. à toutes et à tous. Alors, j'aime bien parce que Lionel nous a prouvé qu'il y avait l'avocat comique d'office. C'est le comique d'office. C'est-à-dire qu'il arrive et déjà, il crépit son client. Oui, c'est vrai, mon client est nul. Oui, il s'est foutu de la gueule du monde. Oui.
Il y a eu un mais.
Mais, et alors là, derrière, bonne chance. Bref, Jean-Louis, je voulais te parler de l'équipe
C'était
de France.
C'était pour rire, ça ?
Non, c'est pas moi le comique d'office.
Parce que ça fait... Ah oui, parce que j'ai eu l'impression. Mais normalement, t'es payé pour nous faire rire, toi, non ?
Écoute, déjà, tu devrais être content. Tu devrais être content d'être titulaire à RMC. T'as été remplaçant d'équipe de France, donc voilà. Sois content.
On peut parler de toi de la même manière.
Ça va bien se passer, cette affaire.
Moi, je suis revenu à mon club formateur. Ça n'a rien à voir.
Ah, ils sont pas rancuniers.
Jean-Louis, non, puis ils sont Alzheimer. Jean-Louis,
oui.
Je voulais te parler de l'équipe de France, hein, l'équipe de Lionel, puisqu'il paraît qu'il en fait partie. Jean-Louis, une nouvelle est tombée sur les téléscripteurs, comme disent les jeunes. C'est officiel.
Je ne sais pas si tu es au courant.
Quoi donc ?
Zidane revient en France. Oui, alors qu'on pensait que ça n'était pas possible, on n'y croyait plus, ouais. Ça y est. Zidane a signé.
Et pas n'importe où.
Oui. Alors oui, je sais, il rejoint le club de Rodez. Alors oui, je reconnais que j'ai eu un teaser un petit peu racoleur, un petit côté bipaclite, comme on dit chez les jeunes des réseaux sociaux.
Ou RMC.
Ou RMC. C'est pas de Zinedine, évidemment, dont il s'agit, mais de Enzo Zidane, le fils de Zinedine Zidane, qui a signé à 26 ans au FC Rodez.
Un très bon club, une très belle ville.
Quel a été ton rôle là-dedans, Julien ?
Alors, je ne peux pas vraiment en parler. J'ai effectivement été actif. Hein. J'ai appelé Pierre-Olivier, Pomme, qu'on l'appelle, hein, le président du club. J'ai appelé Zidane. J'ai appelé Zizou. J'ai appelé la famille. J'ai fait un petit peu le lien. Tout ça s'est fait en catimini dans un hôtel de luxe parisien, comme on dit. Étonnamment, il n'y avait pas mon mot. J'ai été vérifier s'il y avait bien 5 étoiles, parce que je n'ai pas vu mon mot dans l'hôtel. Alors, non, ils m'ont dit qu'ils venaient de partir. Donc, le pauvre Enzo Zidane, lui, il a commencé au Real Madrid et il termine à Rodez en quelques années. C'est-à-dire qu'il est passé de ça. Ça fait des poils. Hein.
Ouais.
Ça fout les... Alors, voilà, c'était ça. Et il est allé à ça. C'est un autre délire.
On a les poils pareils.
Ouais, ouais. Quand t'es... On va se défoncer. Ouais, t'as intérêt à pas venir tout seul, hein, si tu veux te défoncer. Alors, je peux te dire, Jean-Luc, que ça va lui faire un choc. Le stade Paul Lignon, je connais. C'est pas vraiment Bernabéu. Je suis allé plusieurs fois, je peux t'affirmer qu'on est dans le dur. On est plus dans le rural que dans le réal. Moi, j'ai vu des matchs de foot et de rugby là-bas. Et ben, le problème, c'est que j'ai pas trop vu la différence. Donc, dans les deux cas, tu différenciais mal les tirs des drops. Bon, il y a une super ambiance. Ça va quand même le changer. Hein. T'imagines tes Zizou. Imagine deux secondes, tes Zizou. Ton fils, tu l'as mis à la Cantera pour qu'il s'aguerrisse avec les plus grands. C'est comme si Roger Federer, son gamin, il finissait joueur de Jokari à Gstaad, tu vois. Ou Lewis Hamilton, son mioche, il devient voiturier dans un hôtel à Piccadilly. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es des parents, tu mets la barre très haut, t'es dégoûté. Tu vois, c'est là où, pour ça que... Pour tes gosses, toi, je suis confiant, Jean-Louis.
C'est très bien d'être footballeur à Rodez. C'est très bien.
Quand t'es fils de Jean-Louis Tour ou fille de Jean-Louis Tour, ça va. Tu vas jurer, tu sais que voilà, tu vas t'en sortir, tu n'auras pas de complexe. Gosse de Lionel Charbonnier, tu te dis remplaçant en équipe de France, c'est dur, mais c'est faisable. Tu vois, bon, voilà. Jean-Louis.
Attends, moi je me dis un truc quand même, c'est que t'es allé voir du rugby à Rodez. Fallait bien que cette histoire. Ça m'étonne pas que t'aies tourné le dos à la ville, quoi, au bout d'un moment.
Non, mais au bout d'un moment, j'ai fait des efforts. Je peux pas dire que j'embrasse. Le président du club, Pierre-Olivier, et j'embrasse tous les gens de Rodez, hein, d'ailleurs, qui nous écoutent, ils sont nombreux.
On salue tous les ruténois.
Tous les ruténois, les gars de Rodez, comme on dit, et je les embrasse, mais s'ils m'attendent, qu'ils m'attendent pas. Donc, j'ai pas prévu d'y aller ce week-end, mais je repasserai. Hein. En tout cas, j'irai voir Zidane. Jean-Louis, je voudrais reparler quand même du système qu'on a vu hier au Stade de France, qui a été beaucoup critiqué. Mais j'ai quand même une petite remarque qui peut-être vous a pas échappé non plus, que c'était quand même un système un petit peu pas adapté. Je trouve un peu resserré, ça écartait pas beaucoup.
Tu parles du système tactique.
Je trouvais qu'on se marchait un peu sur les pieds.
Non, t'as pas bien écouté parce que c'était bien expliqué.
Non, mais attention.
C'est pas gentil.
On ne critique pas les confrères, capitaine.
Je respecte la mise en place tactique. Seulement, moi, je trouve que c'était un peu resserré. En tout cas, je trouve que 5000 spectateurs collés ensemble, alors que tu as 80 000 personnes de possibles. Je trouve que c'était au niveau du public. Ouais. Mais bon, la fédération. Voilà, ça faisait un peu l'entonnoir. Je trouvais que là, je sais pas si Deschamps, c'est lui qui avait décidé de la tactique.
Julien, c'est les petits jeunes du service commercial qui ont pris cette décision.
Eh ben bravo, tu les. Ben, franchement, c'est des. Parce qu'au niveau du public, en fait, la fédération, ils avaient décidé de faire une tactique qu'on appelle le bus. Tu vois, comme on dit en foot. Alors moi, je pensais qu'un petit 4-4-2 en jouant plus sur les ailes, en écartant les spectateurs sur toute la largeur du stade, ça aurait été peut-être un peu plus judicieux. Ben après, j'y connais rien. Moi, je suis pas un spécialiste, donc j'imagine.
Ça salit.
Non mais moi je pense qu'on testait une tactique pour les futurs événements. Tu sais, comme on fait dans les matchs amicaux. C'était un match amical au niveau des événements. Donc en tout cas c'est bien, parce que comme ça ils étaient en face des caméras d'M6, donc on les voyait bien. Alors d'habitude, je tiens quand même à rappeler que dans les dictatures comme dans les démocraties, on rentrera pas dans un débat, hein. Évidemment, aujourd'hui, on sait très bien où on est. Hein. Ne soyons pas démagos. Oui. Hein, quand un chef d'État s'érige en chef suprême, réduit les libertés pour plus de sécurité, ça s'appelle une démocratie. Donc, on est en démocratie. Et en démocratie, comme en dictature, le point commun, c'est que quand l'État fait une bourde, une banane, une maladresse, ou plus familièrement, une connerie, exemple la GGN à une époque, le Rainbow Warrior, les rétrocommissions, les avions nifleurs, ils se débrouillent pour que ça se passe un peu en scred. Tu vois, en sous-marin, à l'abri des regards indiscrets. C'est là que la fédé excroissance de l'État fait la diff. Le Qatar, quand il y a un reportage sur les travaux du stade, il donne un RTT aux Philippins. Nanar, quand il filait une valoche de bifton à un arbitre, il le faisait pas dans Téléfoot, avec Thierry Roland qui compte les billets. Quand Momo accepte la dernière Rolex, bon bref, vous connaissez tous les bons, il fait ça dans un hôtel 5 étoiles, mais il se débrouille pour que je ne le vois pas quand j'y vais. Donc non seulement à la fin, on a la débilité de parquer des gens dans la même tribune de 5000 personnes collées les unes aux autres alors qu'il y a quelque chose de 80, mais en plus on les met bien en vue en prime time à la télé pour que tout le monde voit à quel point on est con. Et ça, c'est beau. Mais tu vois, mais ça, c'est beau. C'est là que je dis respect, vive la France, vive la République.
Merci, Julien. Dans une seconde.
C'est magnifique. Julien, j'ai Merci. Du petit lait. J'ai
je t'en petit lait. Ça fait plaisir.
Oh, genre, c'était magnifique. C'était une telle connerie.
C'était l'humoriste grinçant, là. C'était l'humoriste grinçant.
Ah, c'était le.
Et
ouais,
et
c'était
engagé.
Le.
Et engagé.
On, qui n'a on pas sent que les présidentielles mots. Approchent, il y a des places à prendre sur BFM.
Allez, dans une seconde. Le mercato, Gerson arrive à Marseille. Est-ce que finalement le mercato va être ambitieux côté marseillais? 32-16, supporters de l'OM, on vous attend. À tout de suite.
RMC jusqu'à 21h.
Top of the foot.